En exergue de ce carnet, j'aimerais relire pour vous cette page extraite du Discours parfait, le dernier livre de Philippe Solers, une page sur les carnets de Proust et plus généralement sur le rôle d'incarner pour un écrivain. Ça s'appelle « Carnet magique ». Pour un écrivain, écrit Philippe Solers, le carnet est ce qu'il y a de plus étrange et de plus intime. C'est un autre temps, une respiration d'appoint, une mémoire profonde et oblique, une chambre noire, un filtre. Là sont notées les apparitions, un rêve, et les morts sont là, tout à coup, plus vivants que jamais, soucieux ou énigmatiques. Une phrase banale prononcée d'une certaine façon et tout un paysage s'ensuit. Une odeur, une couleur, un bruit, et le grand navire de l'existence prend le large, très au-delà de l'actualité en écume, vers un passé qui ne passe pas, qui demande son développement, son récit futur. Je suis un personnage de roman, il va m'arriver des choses. Il faut rester en éveil, rien n'est négligeable ou indifférent. Des rapprochements m'attendent, des signaux, des hasards objectifs. Je suis un animal enfantin, tous les sens participent à l'opération magique. Voilà, c'est parti. Les personnages se présentent d'eux-mêmes, ils veulent être observés et décrits, ils jouent le jeu à leur insu, ils demandent à être radiographiés, mots, gestes, démarches, mimiques. Proust écrit « Je vois clairement les choses dans ma pensée jusqu'à l'horizon. Mais celles qui sont de l'autre côté de l'horizon, je m'attache à les décrire. Le carnet est cet autre côté de l'horizon. » Prenons ce moment, Philippe Solers, comme une photographie, ce moment, l'après-midi, dans votre maison de l'île de Ré, avec le ciel, la mer, le clocher, en face de nous, et c'est un moment privilégié.
Là, on est avec un très léger vent nord-ouest, le nord-ouest, et... C'est le moment où la marée qui s'est retirée très très loin, va recommencer à monter très doucement. C'est-à-dire que petit à petit, on va voir avancer de façon très plate, vous voyez, tout est très plat, une ligne bleue qui va se renforcer petit à petit et envahir toute cette partie du territoire. On sort d'une tempête extrêmement violente, qui a fait des ravages, comme vous savez, en Charente-Maritime, etc., ou avec des inondations catastrophiques, ou des gens à qui on avait construit des maisons dans des zones inondables, qu'on appelle maintenant des zones noires, se retrouvent dans des questions de destruction de leur maison, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très lourd. Imaginez, par exemple, qu'on vous dise... Alerte rouge, c'est ce qui est arrivé. Alerte rouge, les gens se sont réfugiés dans leur maison, ils ont tout fermé. Et vers 3 heures du matin, il y a eu de 2 à 3 mètres d'eau dans leur chambre. Ils sont morts, donc noyés dans leur lit. Sauf quelques-uns qui ont pu passer par les toits et se faire élitroyer par hélicoptère. On sort à peine de cela. Vous voyez que par exemple là, le muret qui est là, a été entièrement effondré par la puissance de l'eau. Donc c'est vraiment un paradoxe, parce que vous êtes à ce moment, dans un moment de calme total, tout a l'air serein, rien ne va se passer, il y aura, comme d'habitude, des hérons, des aigrettes, des mouettes rieuses, des goélands qui vont passer très lentement. Vous aurez l'impression d'être dans un paysage de mélange complet entre l'eau et le ciel. Elle est retrouvée quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Et le temps reste, pour des raisons de spatialité étrange, avec des marais salants, un travail qu'on ne voit pas, de sauniers qui ont repris pied. Là, avec ce paysage en somme chinois où la silhouette humaine se perd, hein, on est dans un temps qui du coup change complètement de nature. Là, vous voyez, on ne va pas se rendre très bien compte de l'heure qui passe. C'est comme si le temps passait autrement ou s'arrêtait autrement qu'ailleurs. Pas un seul bruit, pas de circulation, rien.
J'aime bien d'ailleurs que vous parliez du temps, Philippe Solers, parce que ça me rappelle aussi un chapitre de votre dernier livre que vous avez intitulé « Carnet magique » et où vous parlez de Proust, des carnets de Proust et l'utilisation aussi de votre carnet. Donc j'imagine qu'ici, dans cette maison, vous travaillez, vous lisez de façon différente d'ailleurs. Et il y a ces notations magiques, ces bouts de temps qu'on met dans un carnet quand on écrit.
Voilà quelque chose qui va vous parler du temps, du grain du temps, de l'accumulation presque imperceptible du temps qui va devenir peu à peu visible. C'est l'état de sel que vous voyez monter là, dans les marais salants. Faut s'approcher et voir ce que le temps produit comme sel, hein, façon un peu alchimique si l'on veut, pourquoi pas. Donc là, la question du temps est très favorable si il ne fait pas très mauvais temps, au sens météo. Et là, je peux m'asseoir et alors suivre le liseré de l'eau et ça marche en général. J'écris assez facilement. Alors qu'à Paris, si j'obtiens un résultat en 2 heures, c'est vraiment le bout du monde. Ici, 5, 6, 7 heures, ça va. Comme quoi, il y a des lieux qui peuvent conduire à ça. J'ai vécu beaucoup ça à Venise aussi, pour les mêmes raisons. Hein. J'ai besoin d'eau, comme si l'eau pouvait se changer, non pas seulement en sel, mais en encre.
Et je me souviens vous avoir rencontré à Venise aussi. C'est vrai que les lieux, il y a Bordeaux aussi, il y a toute cette lumière peut-être du sud-ouest, comme disait Barthes, la lumière très particulière du sud-ouest qui va bien avec l'écriture finalement.
Barthes allait un peu dans le sud du sud-ouest, c'est-à-dire, c'était Bayonne, c'est Urth où il avait sa maison, et donc dans quelque chose qui était peu maritime. Ce que je crois important ici, nous ne sommes pas en Bretagne, nous ne sommes pas sur la Méditerranée, nous sommes quelque part dans cette île qui est tournée vers là-bas. Si vous allez tout droit, vous allez arriver vers New York. Bah, voilà. Donc si vous traversez à la nage, vous arrivez de l'autre côté. Il y a de grandes ressemblances entre la côte est des États-Unis au nord de New York et ici. Ou alors avec la Chine, ça va de soi, parce que regardez, les marais sont comme des rizières et le mélange, encore une fois, du ciel et du ciel, l'eau, l'effet miroir réversible est tout à fait important. Oui, alors ça, je dois cet endroit, et quand même, dans le temps. Donc un grand-père qui était navigateur au long cours. J'ai ses livres de marine, on le voit quitter Bordeaux, il était de Bordeaux. Il est venu ici et il a pigé quelque chose tout de suite, comme un marin. Devant, là où je vous montre devant, là tout de suite, sur ce petit lac intérieur, il pouvait tirer son canard en étant assis très tranquillement sur un banc devant chez lui. À droite, selon la marée, il avait son bateau, il partait pour la pêche, il revenait. Il avait donc son poisson, son gibier. Et il pouvait, comme ça, s'imaginer être en bateau sur terre ferme. Voilà, c'est un rêve de marin. Si cet endroit a été protégé et pas complètement dévasté, c'est probablement, on s'en est rendu compte dans les expertises, que les coins les plus anciens avaient été les moins menacés. Hein, c'est partout où l'on a construit à la va-vite, et en somme dans une escroquerie immobilière qui pénalise les pauvres gens qui ont eu ces maisons. Donc partout où c'était récent, la nature en quelque sorte a repris ses droits. La nature, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces temps-ci n'est pas contente. Elle se fâche. Elle n'est pas contente et moi, à sa place, je ne le serai pas non plus. Donc vous avez quand même des tremblements de terre, ça c'est assez routinier, si j'ose dire, en Chine, au Chili, Haïti, n'en parle pas. Vous avez quelque chose de plus étrange, c'est quand même ces inondations qui ont... Parce que le port de La Rochelle inondé, ça, on ne l'a pas vu. Cette île même a repris la configuration qu'elle avait au XIIe siècle. Elle a été coupée en trois îles différentes, avec la possibilité de circuler. Vous voyez, bon, XIIe siècle, ça, voilà, tout à coup, vous voyez que le temps peut devenir brusquement autre chose. Et puis maintenant, vous avez alors les nuages de cendres du volcan islandais au nom imprononçable, avec un autre qui peut quand même ressurgir bientôt. Donc là, cette colère du ciel, de la terre, du feu à travers la glace, et qui supprime tout à coup toutes les communications d'aéroports, d'avions, c'est quand même impressionnant. Pendant que tout ça se passe, regardez, cette zone a été dévastée par une tempête, on a été obligé de refaire toute cette digue, et brusquement, de nouveau, la nature reprend ses droits à un calme plus éloquent encore que celui d'avant. C'est encore plus calme et encore plus serein, comme si, en même temps que la destruction augmente, quelque chose de très bizarre avait lieu aussi, et qu'une sorte de sérénité supérieure montait en même temps. C'est très paradoxal. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, comme le répète sans cesse Heidegger en citant Hölderlin. Et j'ai cette impression très profonde. C'est-à-dire que plus la dévastation s'accroît, ce qui est quand même pas seulement visible dans les phénomènes naturels, mais dans les phénomènes humains en général, c'est-à-dire... la culture, l'illettrisme, l'évacuation de l'histoire, quelque chose de très très étrange aussi qui se passe dans cette mutation. Plus en même temps, c'est pour ça que Discours Parfait essaye de manifester cela, plus en même temps tout le noyau dur, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est vraiment expérience très très vivement vécue, monte. Donc d'un côté, destruction, de l'autre, éclaircie.